Le studio des légendes.
Lionel Rousseau.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur Europe 1, le studio des légendes, le rendez-vous que vous attendez impatiemment, évidemment, pour une grande date, un grand match. Ce soir, Paris Saint-Germain-Marseille, le classique à suivre en intégralité sur l'antenne d'Europe 1, l'analyse en direct de nos experts, mais avant évidemment l'analyse et les débats avec nos légendes ce soir. Quatre légendes pour évoquer le classique et pour évoquer Paris Saint-Germain-Marseille. Guy Roux est avec nous, bonsoir Guy.
Bonsoir.
Il a été président du Paris Saint-Germain, entre autres, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Il a été président de l'Olympique de Marseille, entre autres, Christophe Boucher. Bonsoir.
Bonsoir.
Et maire de Tours également, mais président de l'Olympique de Marseille, en effet, entre 2002 et 2004, hein, si j'ai bonne mémoire.
Exactement.
Et puis Dominique Grimaud. Bonsoir Dominique.
Salut Lionel.
Quel
Salut
plaisir de vous retrouver. On va échanger, partager et débattre autour de ce Paris Saint-Germain-Marseille, le fameux classique. Pourquoi c'était mieux avant? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a un peu moins d'intérêt que à l'époque de Charles Villeneuve, à l'époque de Christophe Boucher ou même de Bernard Tapie, de Michel Denisot. Les classiques, les Paris-Marseille, les Marseille-Paris, c'est plus vraiment ce que c'était. Peut-être moins d'intensité, moins d'aspérité, moins d'intention aussi de la part des joueurs, des supporters. Vous allez pouvoir donner votre avis. C'est un match évidemment qui est digne d'intérêt, mais on a le sentiment qu'il y a un peu moins d'intensité. On évoquera également le cas des deux entraîneurs, et puis notamment celui de Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, en se demandant si il n'est pas finalement un plus grand entraîneur encore que Thomas Tuchel, car les deux n'ont pas les mêmes moyens, et peut-être que Villas-Boas arrive à faire, évidemment Charles, arrive à faire des choses avec un peu de bricolage, alors que Tuchel évidemment a énormément de moyens. Et puis on verra la composition des équipes dans quelques instants, mais il est fort probable qu'Icardi joue ce soir et zappe Cavani. Est-ce que ça peut durer et Cavani se retrouve vraiment sur le banc au bénéfice d'Icardi, l'Argentin arrivé en début de saison? On va en débattre avec nos experts, avec Marc Libra qui nous rejoindra tout à l'heure également, et puis avec Grégory Schneider. Le match, justement, le Parc des Princes pour ce grand classique. On va vous retrouver au Parc des Princes. Vous allez nous accompagner pour le commentaire de cette rencontre. Julien Froment, Christophe Lamarre, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Lionel.
Ambiance des grands soirs. Le coup d'envoi, c'est 21h, 21h03 en général. Donc on est à une heure de ce coup d'envoi. Est-ce que la tension commence à monter, si tant est qu'il y ait une tension, bien sûr?
Oui, alors écoutez, ça monte crescendo. On va pas vous mentir, le Parc des Princes est encore aux trois quarts vide. Il y a juste le virage Auteuil, bien évidemment, où sont bien le collectif Ultra Paris. Là, il est déjà bien garni. D'ailleurs, il y a eu une petite bronca du côté du virage Auteuil parce que un garçon un peu ambitieux s'est présenté dans le quart de virage avec un maillot de l'OM, ce qui n'a pas du tout plu aux supporters parisiens. On le rappelle, hein, les Marseillais sont interdits de déplacement ce soir du côté du Parc des Princes, et la sécurité a donc intervenir. Du côté des compositions, Christophe, on les a déjà. On va commencer par celle du Paris Saint-Germain pour vous dire que ce qui avait été annoncé dans la presse, c'est confirmé, à savoir Navas dans les buts, Dagba, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Bernat en défense. Un milieu à 3 avec Verratti, Marquinhos et Ander Herrera. Et puis en attaque, le retour, la titularisation de Kylian Mbappé, accompagné d'André Di Maria et de l'Argentin Mauro Icardi. Du côté de l'OM, Christophe, là, il y a un coup à jouer pour les Marseillais ce soir. En cas de victoire, Marseille pourrait monter sur le podium.
Effectivement, et Marseille vient quand même avec quelques intentions. On vous laissera en débattre avec vos invités, Lionel. Bien sûr, André Villas-Boas, il y a une semaine déjà, à l'issue de la victoire 2-0 contre Strasbourg, avait expliqué que Paris jouait dans une autre ligue. Manière de dire que Paris était déjà dans une autre dimension, et que depuis que les Qatariens étaient arrivés, eh bien, ils avaient dépensé à peu près 1 milliard sur le marché, et qu'évidemment le Champions Project, cher à monsieur Franck McCourt, avec 200 millions d'euros injectés en 4 ans, en était encore très très loin. Et c'est vrai que quand même Marseille vient là avec évidemment l'idée de ramener quelque chose. Quoi? Un match nul peut-être, et pourquoi pas une victoire. En tout cas, il y aura au moins un changement par rapport à la semaine dernière. C'est Maxime Lopez qui devrait être titulaire à la place de Morgan Sanson, ce qui nous donne une composition assez classique. Sinon, si elle n'est pas démentie dans les faits, bien sûr on vous le dira, ça devrait être Mandanda évidemment dans le but, Camara avec Tchaletassar en charnière centrale à droite, Bounassar à gauche, Hiroki Sakai au milieu de terrain, pardon, Maxime Lopez, Strootman, et à droite Valentin Rongier, et puis évidemment trois joueurs à vocation offensive. À droite, Germain, dans l'axe, Benedetto, bien sûr, et à gauche, le retour, évidemment, de Dimitri Payet, qui devrait être titulaire d'entrée.
On va vérifier ça avec vous, évidemment. On vous retrouvera peut-être aux alentours de 20h30 pour refaire un point compo précis sur notamment l'Olympique de Marseille et rappeler celle du Paris Saint-Germain pour celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre ce match, évidemment, sur l'antenne d'Europe 1 et les grands débats avec nos légendes, le studio des légendes, en vous rappelant qu'en Ligue 1 cet après-midi, Rennes a battu Toulouse 3-2 et Saint-Etienne et Amiens ont fait match nul 2 partout. Mais évidemment, cette émission est quasiment totalement consacrée à notre classique, Paris Saint-Germain-Marseille.
Europe 1 Sport, le studio des légendes. Lionel Rosso.
Le studio des légendes sur Europe 1 avec Charles Villeneuve, Christophe Boucher, Dominique Grimaud et Guy Roux. Le classique, pourquoi c'était mieux avant ? Je ne vous donne pas la parole tout de suite, Charles Villeneuve et Christophe Boucher, pour comparer avec votre période, mais plutôt demander à Guy Roux si vraiment c'était mieux avant les classiques, les Paris-Marseille, les OM Paris qui sentaient la poudre. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est très aseptisé. Guy Roux est donc un peu décevant.
Oui, si on veut, c'est pas décevant d'avoir des matchs sans blessés parmi le public. C'est quand même un acquis très important d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des matchs où il y avait de la violence vraiment lors des rencontres. Les supporters de Marseille, par exemple, débarquaient, il fallait des forces de police considérables, mettre une rue complètement ouverte pour les faire passer. Enfin, c'était un état de guerre presque. Et ça, c'est évidemment, pour moi, un grand progrès qu'on n'ait plus ça. J'aurais souhaité qu'on ne l'ait plus en ayant les supporters marseillais présents. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas résolu le problème et les pouvoirs publics, les préfets, ont plutôt choisi la solution certaine ou la solution de facilité, selon ce que vous en pensez.
Alors évidemment, il y a le cas des supporters qui ne peuvent pas faire le déplacement et on le comprend aisément pour des raisons de sécurité, mais plus de déclarations intempestives, Charles Villeneuve, des joueurs. Bon, à part Kimpembe dans les colonnes de l'équipe cette semaine qui dit qu'il ne mettra jamais les pieds à Marseille, à part ça, pas de déclaration d'agressivité, pas de déclaration de guerre, entre guillemets, bien sûr. C'est un match de foot, de Ligue 1 tout simplement, c'est pas un événement.
Non, c'est vrai qu'avant c'était une dramatique, maintenant ça tourne à la pièce de boulevard. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus léger et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'observer et d'analyser Guy. C'est vrai qu'en même temps, les préfets, je suis sûr que si les supporters marseillais étaient là, ça ne tournerait pas obligatoirement au drame, d'autant que le service d'ordre est assez conséquent ce soir. Alors, ça reste pour moi un match à part. C'est-à-dire que ce soir, il y aura 2 fois plus de voitures dans les parkings du PSG. Il y aura beaucoup de VIP et de vedettes au carré des vanités. Vous savez, ce carré, justement.
La corbeille.
Ou la corbeille, exactement. Et ça reste un match à part parce que Marseille, qui a dominé Paris dans les années 90, largement, il ne faut pas l'oublier, Paris les a rattrapés. Mais évidemment, la différence vient du fait que le budget a creusé un trou abyssal avec celui de Marseille. Le budget du PSG, c'est 697 millions d'euros. Bon, et là, il n'y a aucun club en France, de toute façon, qui atteint même les 200 millions. Peut-être l'OM avec l'injection de McCourt, l'homme d'affaires américain, mais qui depuis a arrêté d'injecter, de toute façon, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effort qui a été fait. Mais ça reste quand même... Tout à l'heure, je le disais, il y aura du monde et ça reste un match à part parce que Marseille, c'est quand même l'un des plus beaux palmarès. C'est quand même le seul club qui a remporté la Champions League, il ne faut pas l'oublier. Mais Marseille ne bénéficie plus, si vous voulez, d'animateurs du type Tapie. Et puis le PSG n'est plus la propriété de Canal+. Ce sont les deux qui ont monté en épingle, si vous voulez,
qui ont monté
ce
fameux classique.
Classico.
Bien sûr, effectivement. Sachant que on dit le classique parce que le vrai classico, c'est en Espagne, entre le Real et le Barça. Alors après, on a eu cet intitulé en France avec le classico et on parle effectivement de classique. Mais Christophe Boucher, on peut aussi se demander si ce n'est pas le PSG version QSI, Qatari, qui a tué ce classique avec ces sommes d'argent astronomiques, ces stars qui arrivent et qui écrasent le championnat de Ligue 1, d'où la non-rivalité qui existe entre Marseille et Paris.
Mais le classique, là, le classico, il est à la hauteur du championnat de France, de l'intérêt du championnat de France aujourd'hui.
Donc voilà. Pas terrible.
Inexistant. Vous connaissez, mais c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème quand vous connaissez le vainqueur d'une épreuve avant qu'elle débute. Franchement, le sport, c'est pas ça. Si on vend des droits sportifs, si les radios font des émissions spéciales, les télés aussi, c'est parce que c'est l'incertitude du résultat qui intéresse tout le monde, qui nous intéresse tous. C'est ça qui nous fait vibrer. C'est les finales de Champions League qui s'inversent dans les 5 dernières minutes. C'est ça qui fait rêver dans le sport. Aujourd'hui, le championnat de France, il ne fait plus rêver. Tout le monde se pose la question, pourquoi il ne fait plus rêver? Il ne fait plus rêver parce qu'on connaît le résultat. Et ça, quand dans un match de foot, vous connaissez le résultat, ou dans un autre sport, c'est plus compliqué. Alors, il y a des sports qui arrivent à s'en tirer comme ça, parce que c'est plus technique, c'est plus statistique, c'est le basket, par exemple. Mais le foot, quand vous connaissez le résultat d'avance, est-ce que moi, j'ai jamais de ma vie, je vous assure, regardé un match de foot en différé? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'intéresse pas.
Parce que vous connaissez le résultat, vous vous informez en direct.
Et les matchs amicaux ne m'intéressent pas non plus. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est l'adrénaline, c'est le résultat, c'est ce qui va se passer, c'est l'ambiance, c'est la théâtralisation, c'est la dramaturgie. Bon, Giroud a raison, hein, on a évité maintenant le pire, et c'est tant mieux, parce que moi je me souviens d'un classico où on s'est fait bombarder de boules de pétanque, de barrières Vauban, les vitres étaient cassées,
Il ne faut pas oublier que les supporters parisiens se sont entretués.
Je sais bien, Charles. Je sais tout ça et Guy a raison là-dessus. Et pour le reste, sur le plan sportif, si on tient sur le plan sportif, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de compétition. Donc le classique, c'est comme l'a dit Charles, donc je vais répéter ce qui a été dit, j'en suis désolé, donne un petit peu plus d'adrénaline et un petit peu plus de saveur à l'ensemble, parce que c'est Marseille, parce que effectivement le carré sera rempli, parce que et si et ça. Et la preuve, je viens voir moi ce match alors que j'en fais deux dans l'année, et donc évidemment j'y suis intéressé, mais dans un cadre global qui a perdu de sa saveur.
C'est-à-dire qu'on a intérêt à ce que Marseille redevienne Marseille.
Bien sûr.
Pour le championnat de France, et pas seulement d'ailleurs, que Saint-Étienne retrouve sa verdeur, son élan, qui a été quand même important dans l'histoire du football. Auxerre, évidemment, qui, depuis que finalement...
Il faut beaucoup de sous.
Depuis que Guy est parti aussi, il faut le reconnaître, il faut le dire.
Oui,
moi, j'ai beaucoup d'amitié et de tendresse pour Giroud, il le sait d'ailleurs. Lorsqu'il travaillait pour TF1, il y a assez peu de temps encore... Mais c'est vrai que tout ça manque, même au niveau, si vous voulez, du vedettariat.
Vous voulez dire des personnages emblématiques
pour drainer quelques... Oui, des personnages emblématiques. Giroud est un personnage emblématique.
Christophe Boucher.
Ça c'est pour la théorie, mais dans la vérité, dans la réalité, ça ne peut plus se passer. C'est-à-dire que le drame du championnat de France, c'est que le deuxième club, il n'existe toujours pas. Le deuxième club derrière le PSG. Et le seul club qui peut exister derrière le PSG, c'est un club parisien. Parce que vu les montants, vu les sommes qui sont aujourd'hui dépensées dans le football européen, à Madrid, à Barcelone, à Manchester, à Londres et à Paris, il n'y a pas de métropole française aujourd'hui qui est capable de porter un club de l'ampleur de Paris.
Nice, par exemple, avec l'ambition de son nouveau propriétaire,
ça sera très difficile.
Vous savez,
Marseille, il y a eu Robert Ludreyfus, c'était du lourd.
Ce qui manque à Nice, c'est un bassin de population conséquent.
Exactement, Charles. Il n'y a pas la métropole qui porte.
On en revient à l'économie.
Alors, il y a la clé du budget aussi, de l'argent.
Ça va être un vrai sujet, et c'est un vrai sujet parce que même pour les dirigeants de l'OM qui vont se succéder qui vont continuer à succéder, qu'est-ce que vous voulez expliquer à vos sponsors, à vos supporters, quand vous dites bon, on va essayer d'être deuxième cette année? Quand vous êtes l'OM, quand vous avez eu jusque-là le plus beau palmarès, quand vous avez gagné la Champions League, qu'est-ce que vous leur expliquez?
Christophe, on ne dit pas ça, on dit simplement j'espère qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions.
Dominique Grimaud,
vous avez
connu cette période-là, vous.
Lorsque vous avec Jean-Claude Dassier, Vincent Lavoie, c'était en 2010.
C'était la dernière année.
Et Didier Deschamps comme coach.
Bien sûr, Deschamps et Stéphane. Et deux fois le tour de sur bus impérial du Vieux-Port. Donc, c'était il y a déjà 9 ans. Mais évidemment que je rejoins mes amis aujourd'hui. Pour schématiser un peu, il y a un club qui, effectivement, un club d'État, oublié, le Qatar.
PSG, donc le Qatar.
Contre 19 villes, représentées par 19 clubs, et les 19 autres clubs ont un double objectif et simultané. Le maintien et la qualification pour l'Europe. C'est ça qui est complètement hallucinant. Et on a un championnat, en ce sens, totalement unique en Europe et même dans le monde. Une équipe qui se détache, mais trop largement, et là je vous rejoins, et 19 clubs, 19 équipes qui font ce qu'ils peuvent, ce qu'elles peuvent.
C'est embêtant, Giroud, effectivement, quand on est à quelques minutes d'un grand match ou d'un grand rendez-vous. C'est vrai que les médias font monter la sauce autour de Paris-Marseille, hein, évidemment autour de ce classique, mais apparemment, on connaît déjà le résultat. Paris va gagner. Ça, non, c'est embarrassant quand même.
Le football n'est pas le seul, d'ailleurs, est quand même un sport où, même quand il y a des grandes différences par les résultats précédents, on doit garder un espoir et on peut le faire. Moi, j'étais l'entraîneur d'une petite ville. Et quand on est sorti, qu'on a commencé à aller dans les Coupes d'Europe, je disais toujours, on est à égalité. Vous allez bien les regarder. Ils ont deux jambes comme vous. Ils sont bronzés ou pas bronzés, tondus ou pas tondus. Mais on peut gagner, on gagnera. Et puis, on en a gagné quelques-uns. Je voudrais aussi rappeler, parce que l'énormité du Paris Saint-Germain actuel, qui par exemple se passe de Neymar sans soupirer, ou d'autres, il y a eu un très grand Paris Saint-Germain pendant très longtemps. Il y a eu Ronaldinho qui a mis des pâtés à Marseille. Il y a eu
Paoletta aussi
qui mettait des buts. Qui mettait autant de buts que Cavani, il y avait Rai, il y avait des internationaux français, il y avait un très grand Paris Saint-Germain, constamment devant, dans les premiers, et assez souvent premiers.
Les classiques que vous avez vécus, vous, Charles Villeneuve, oui. C'était des bons classiques pour le Paris Saint-Germain? C'était une bonne période?
Justement,
c'est des bons souvenirs?
Je prends le relais de Giroud, je me souviens justement du festival Ronaldinho, qui partant quasiment de ses buts, a traversé tout le terrain et a marqué... etc. Bon, c'était des classicos contre Marseille, d'ailleurs. C'était fini 3-0, un score de ce type. Moi, le dernier classico qui m'a procuré beaucoup de plaisir, c'est celui où nous avons gagné 4-2 au stade Vélodrome, avec Peggy Lindula qui avait fait une partie absolument invraisemblable, etc. Et puis d'autres joueurs, bien sûr, Makelele, Cessegnon, Ludovic Juilly, etc. Non, mais j'ai vécu quelques... Et puis surtout, j'étais quand même un spectateur. D'ailleurs, Christophe Boucher, j'étais journaliste, mais je venais en tant que spectateur, m'a souvent vu au stade Vélodrome, puisque je suis plutôt du côté de Toulon, là, aujourd'hui, où je suis marié avec une Toulonnaise, mes filles sont Toulonnaises, etc. etc. Donc, j'allais souvent à l'OM parce que, évidemment, la Côte d'Azur apprécie pas les Niçois. Hein. Les Niçois, non, mais sinon, les autres, l'OM a quand même un impact important. Et puis, l'OM, ça reste le club qui regroupe une majorité de supporters en France. On allait voir l'OM. Mais c'est vrai que mon cœur penche plutôt pour Paris. J'espère que Paris aura un jour la même popularité, mais j'apprécie l'OM et j'apprécie que l'OM redevienne l'OM en même temps que d'autres clubs, d'ailleurs.
Il faut gagner la Ligue des Champions, je pense, pour atteindre la popularité de Marseille, très vraisemblablement, et c'est l'objectif de Paris. Christophe Boucher, les classiques, vous, que vous avez vécu en tant que président, il y avait
cauchemar.
Une intensité. Ah, pourquoi un cauchemar?
Un cauchemar, parce que je crois que je les ai tous perdus. donc c'était un cauchemar, c'était la fameuse époque de Ronaldinho, où... Alors Guy, je apportais juste une petite nuance, c'est que le PSG de l'époque faisait quand même 3 matchs par an, et Ronaldinho en faisait 4, mais ce n'était pas la bête noire du championnat. C'était pas, d'ailleurs, le palmarès du PSG avant le Qatar est quand même relativement maigre. Et donc, effectivement, on avait des beaux classiques, ce qui est vrai. Alors, on avait des beaux classiques grâce à Ronaldinho, qui faisait 3 matchs par an, dont les deux de Marseille. Puis le troisième qui était ou télédiffusé ou peut-être contre le deuxième du championnat de l'époque ou du premier, mais c'est tout. Mais c'était pas la bête noire, c'était pas cette énormité. Guy a employé un mot énormité. Oui, c'est énorme. C'était pas écrasant. Là aujourd'hui, le vrai problème, qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie du championnat de France? Il y a eu, d'ailleurs, Giroud en a été l'un des artisans, sinon l'artisan, où la formation pouvait venir combler, notamment financièrement aussi, le déficit des autres. Il y a eu le moment, les années Tapie ou Devers, mais aujourd'hui tout ça est passé et le fossé, c'est plus un fossé, c'est un abîme. Et je ne sais pas comment on va s'en tirer. En fait,
moi,
je suis assez pessimiste.
Je nuancerai un petit peu que tu viens de dire, Christophe.
Mais Charles, comment on fait?
Non, mais je veux dire, sur le plan de la formation, moi, ce que je regrette profondément, c'est que Paris ait laissé échapper Coman. Oui. Paris a laissé échapper Rabiot. Paris, évidemment, a prêté à Réola, parce que moi, je crois à Réola, etc. Et je crois, justement, à ce transfert du centre de formation à l'équipe première. C'est vrai que Guy a été un formateur important. Il y a plein de joueurs qui sont encore nostalgiques du centre de formation d'Auxerre. Bon, on m'en parle.
Les choses ont changé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des joueurs de 15 ans et 16 ans...
Mais je trouve que les grands clubs de ce type ne cultivent pas assez, justement, les pépites qu'ils ont dans leur centre de formation. La France, moi, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai assisté à une conversation il n'y a pas très longtemps à la IAT, place Vendôme, entre Ferguson et Wenger, et tous les deux disaient, s'accordaient à dire, la France est le plus grand réservoir de joueurs, de bons joueurs d'Europe. Ben, il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs français qu'il y a en
première division. Et qui partent à l'étranger.
En Allemagne, en Italie maintenant aussi, et en Espagne aussi. Quand on voit la Ligue anglaise, c'est incroyable le nombre de joueurs français dans les équipes.
Mais ce qui pose un problème du championnat de France, quand même.
C'est vrai, voilà. Mais justement, l'une des pénuries du championnat de France vient de là.
Giroud.
Oui, on est le plus grand pays exportateur, le deuxième derrière le Brésil. Le Brésil, il doit avoir 3000 Brésiliens répartis dans le monde, footballeurs. Bon, nous, c'est quelques centaines, mais c'est beaucoup.
Oui, c'est l'Europe.
Autant,
nous, on
autant
est
de joueurs.
Au plan européen.
Voilà. Et alors, ce qui nous sauve au point de vue équipe nationale, c'est d'abord d'avoir une bonne structure, président de la fédération sélectionneur, ça c'est très important, mais aussi que nos très bons joueurs, ils sont dans les très bons clubs. Et ils ont gardé un état d'esprit que la fédération et toute la France entretient, de revenir avec plaisir, défendre nos couleurs 10 fois par an. Mais... Voilà. Alors ça ne se voit pas au niveau d'équipe nationale, mais notre football est constamment purgé. Alors les règlements, si vous me permettez une minute, ont été en faveur de cette histoire-là.
Exactement.
Parce qu'avant, quand on avait un garçon de 14 ans, on pouvait le garder jusqu'à 23 ans, il ne pouvait pas s'en aller.
Oui.
Il y avait une succession de portes qui étaient fermées, il y avait aspirants, il y avait stagiaires, et après il fallait qu'il fasse un certain nombre de matchs. Aujourd'hui, quand il a 16 ans, même s'il est à Paris Saint-Germain, si le Milan vient ou un Anglais, il s'en va.
Absolument.
Et il
ne
faut pas trop reprocher à Paris Saint-Germain
de ne pas
les avoir gardés, parce qu'il est soumis à la concurrence mondiale et féroce.
Alors, le descriptif que vous venez de faire de l'organisation footballistique en France devrait inspirer, je le dis juste au passage, la fédération de rugby. Le rugby français est pauvre aujourd'hui en Europe, à cause de cette absence de structure.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers aussi qui viennent dans le top 14. D'ailleurs, on en parlera dans une émission spéciale très prochainement avec Serge Blanco, qui sera l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe.
Non, mais si on fait un point d'histoire pour augmenter le propos, il y a ce que vient de dire Giroud, qui est fondamental. Mais c'est fondamental. Moi, je me souviens d'avoir fait signer Nasri à l'époque, mais aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Et il y a un deuxième aspect qui a mis longtemps à se mettre en place, mais dont maintenant, on est là au plein régime. Moi, j'y reviens à chaque fois, mais c'est une réalité, qui est l'arrêt Bosman. C'est la combinaison des deux qui fait qu'aujourd'hui, on a un football de club français, ce que disait Dominique, extrêmement singulier, mais extrêmement pauvre.
Ah oui. Dominique Grimaud, Marseille, pour s'en sortir, ne peut pas miser uniquement sur la formation, sur les jeunes joueurs, parce que là aussi, il y a un formidable réservoir à Marseille, dans la région PACA, mais ça ne suffira pas pour lutter contre le Paris Saint-Germain et ses dollars.
Ah non, c'est très compliqué. Je parlais de club État, mais l'OM, c'est un club très particulier au sens, et Christophe le sait, où il y a une ville entière derrière l'OM. Marseille, c'est l'OM. L'OM, c'est Marseille. C'est la grande différence qu'il y a avec le PSG. Le PSG, effectivement, et Charles nous le disait, c'est un budget d'environ 700 millions. Parenthèse pour dire que le budget de l'Ajax Amsterdam, qui nous régale très régulièrement, est de moins de 100 millions. Ce qui prouve bien qu'en football aussi, on peut réussir quand on a une véritable politique de formation, ce qui est le cas de l'Ajax Amsterdam. Pour revenir à l'Olympique de Marseille, c'est sûr, c'est clair qu'il va falloir attendre beaucoup, beaucoup encore, pour que l'OM, de nouveau, à nouveau, soit au pic, au sommet du football européen. C'est une évidence. Mais parce qu'il n'y a pas de recette miracle.
La grande soirée, le classique Paris Saint-Germain-Marseille, c'est ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Le studio des légendes continue. On se retrouve dans quelques instants pour parler encore de ce match par le prisme notamment des entraîneurs. Et peut-être Villas-Boas va-t-il réussir un coup ce soir face à Thomas Tuchel et toute son armada. On en parle avec nos légendes ce soir. Il y a Christophe Boucher, il y a Giroud, Dominique Grimaud, Charles Villeneuve. On remercie Charles d'ailleurs. On va retrouver Marc Libra dans quelques instants. A tout de suite sur l'antenne d'Europe 1.